Il est 6h03 à la météo. Aujourd'hui, c'est alternant soleil et nuages. Il va faire moins 4 degrés. Alors, c'est une belle journée. Pas très froid, là, quand même. Et ça va quand même demeurer nuageux au cours de la nuit et de la soirée. Faible neige qui va débuter cette nuit avec des vents de 15 km à l'heure. Il va faire moins 8 degrés. Mercredi, des chutes de neige qui vont commencer en après-midi. Il n'y a pas d'accumulation, cependant, là, qui sont annoncées nécessairement. Alors, ça veut dire que, bon, on parle peut-être d'une trace de neige, là. Alors, il va faire pour mercredi moins 1 degré. Et là, écoutez bien ça. Jeudi, soleil moins 10. Alors, ça va être froid. Et là, après ça, vendredi, c'est des nuages plus 7. Alors, vous voyez qu'on va passer d'une journée à l'autre, puis plus 8, même pour samedi, avec de la pluie ou de la neige, et de la neige pour dimanche avec moins 7. Alors, le mercure fait des bons en ce moment au Québec, là, et notamment dans la région de Montréal, il fait moins 7 degrés en ce moment. Bon, voyons un peu ce qu'il y a dans les différents quotidiens ce matin. Et bien sûr, ce qui retient l'attention sur la scène internationale, c'est l'escalade entre Washington et Téhéran qui se poursuit. Hier, les Iraniens ont rendu hommage au général Qassem Soleimani, qui a été tué par une frappe de drone vendredi dernier à Bagdad. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers, donc, pour participer à ses funérailles. Et il y a eu une espèce de mouvement de foule, à un moment donné, de panique dans la foule. On parle de plusieurs morts, de 35 morts durant cet événement-là. Les funérailles qui ont eu lieu devant des foules qui étaient gonflées à bloc et qui criaient « Mort à l'Amérique ». Et dans le journal La Presse ce matin, sous la plume d'Agnès Grouda, on dit que ça a fait entrer la planète dans une zone de tension où tous les scénarios paraissent possibles. Et une attaque qui a marqué un tournant dramatique, celle contre le général Soleimani, dans l'escalade entre Washington et Téhéran. Alors, on ne sait pas où ça va aller. On sait que, bien sûr, qu'il y a des tensions assez importantes qui se répercutent jusqu'à Bagdad. Et hier après-midi, pour vous montrer l'état de confusion, Bagdad a annoncé que l'armée américaine lui avait signifié dans une lettre qu'on allait retirer les troupes du territoire irakien. Alors, la lettre disait « Nous respectons votre décision souveraine qui ordonne notre départ ». Et c'était une lettre qui était écrite par le général William Seely, qui est le commandant des opérations militaires en Irak. Et ça faisait référence à la motion du Parlement irakien qui a été adoptée dimanche dernier et qui donc demandait le retour des le départ pardon des troupes américaines. Ce qu'on a expliqué, c'est que la lettre était bel et bien réelle, mais qu'elle n'aurait jamais dû être envoyée. Il y a quelqu'un qui a pesé sur send un peu trop vite. C'était un projet de lettre non signé, dit-on, qui avait été envoyé à certains militaires irakiens. Mais on dit que aucune décision n'a encore été prise de quitter l'Irak, point. Et cette lettre ne correspond pas à notre état d'esprit, a dit le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, hier. Et il a précisé que les troupes étaient redéployées en Irak, mais qu'elles ne quittaient pas le pays. Alors, c'est un peu rapide, n'est-ce pas, comme conclusion, ce départ des troupes américaines. Et pendant ce temps-là, on s'inquiète toujours de ce qui va se passer là-bas. Hier, c'était le début du procès de Harvey Weinstein à New York. Et bon, c'est un procès qui va être long. Là, on parle de 2 mois. On devrait commencer la sélection du jury aujourd'hui. Hier, c'était davantage des procédures. Mais ce qu'on a appris, c'est qu'en marge de ce procès qui commence donc à New York, ben il y a d'autres accusations d'agressions sexuelles qui ont été déposées contre le magnat déchu d'Hollywood. Et donc, il a été inculpé hier à Los Angeles pour 2 nouveaux cas au même moment où son procès commençait à New York. Et là-bas, à Los Angeles, Weinstein est accusé d'être entré de force dans la chambre d'hôtel d'une femme pour la violer. C'était le 18 février 2013, puis d'en avoir agressé une autre le lendemain dans une chambre d'hôtel de Beverly Hills. Alors, hier, la procureure du comté de Los Angeles a dit « Nous croyons que les preuves établiront que l'accusé a utilisé son pouvoir et son influence pour avoir accès à ses victimes puis commettre des crimes violents à leur encontre. » Alors, ça se poursuit, cette escalade. On croyait qu'il y aurait seulement 2 accusés, finalement, 2 personnes qui l'accuseraient, pas 2 victimes, pardon. Mais finalement, il y en a d'autres dans le secteur de la Californie. Puis toujours à l'international, il y a bien sûr ces incendies qui ont détruit 1500 maisons en Australie. Si vous avez vu la carte là des incendies de forêt, ça touche beaucoup le territoire qui est situé plus à l'est de l'Australie. Et ce que ça fait, évidemment, c'est des traces de fumée qui sont visibles sur les photos satellites. Et là, on se rend compte que la fumée se répand sur 12 000 kilomètres au-dessus du Pacifique, imaginez, et atteint le Chili et l'Argentine. Alors, c'est dire à quel point ces incendies sont importants. Et en début de journée, ce qu'on disait, c'est que dans le secteur argentin ou chilien plutôt, le soleil était marqué de ton rouge en raison de ce nuage de fumée qui vient masquer en partie, n'est-ce pas, le ciel. Moi, j'ai vécu, évidemment, c'est pas la même ampleur, mais j'ai vu ça, entre autres, pas l'été dernier, l'été précédent, à Vancouver, il y avait des incendies de forêt assez importants et il y avait une espèce de voile de fumée par-dessus la ville. C'est assez impressionnant. Imaginez, là-bas, c'est, on pourrait considérer 100 fois pire. Excusez-moi. Et donc, on dit en même temps que le Service météorologique national d'Argentine a aussi diffusé des images satellites qui montrent le nuage de fumée et ça pourrait se répandre jusqu'au Brésil. Alors imaginez l'ampleur de ces feux de forêt. Et pendant ce temps, dans Le Devoir, ce qu'on nous raconte, ça c'est intéressant, c'est que il y a un contraste marqué entre la médiatisation des incendies à l'échelle mondiale et ce qui se passe en Australie. Et là, on raconte la façon dont certains médias australiens, dont The Australian, qui est un quotidien très influent de droite là-bas, qui lui, il fait pas sa une avec ça, les incendies de forêt. Eux autres, ça les intéresse plus ou moins, en fait. Ils sont climato-sceptiques, dit-on. Et donc, la première page du Australian, au cours des derniers jours, en fait, de la journée, la première page qu'on avait hier, c'était... On présentait une chasse au trésor et une histoire de contrôle des boissons alcooliques chez les aborigènes. Les incendies de forêt, ça arrivait bien plus loin. Un autre journal australien, le tabloïd The Courier Mail, insistait en une sur la délirante histoire d'un devin qui prédisait le retour prochain de la pluie en se basant sur sa lecture des plures d'oignons. Alors ça, c'est la couverture que font certains tabloïds et journaux australiens. Le Herald Sun révélait que, en fait, reléguait la nouvelle des incendies en page 4. Et ce qu'on a expliqué chez The Australian, c'est de dire, ouais, ben, c'est parce que c'est le temps des fêtes, puis pas facile de trouver des journalistes. Alors, c'est pour ça qu'on n'avait personne sur le terrain. Donc, on a décidé de reléguer tout ça beaucoup plus loin. Alors, c'est dire de la façon dont on peut traiter ces informations-là. D'ailleurs, le premier ministre Morrison, australien, qui est de droite, lui, a mis du temps avant de réagir à ces incendies de forêt et faire en sorte d'envoyer des secours ou en fait de l'aide supplémentaire là, pour y arriver. On va aller à la circulation avec Linda. Merci, Linda. Bon, parlons un peu d'urbanisme. C'est intéressant, cette étude qui a été faite par la communauté métropolitaine de Montréal et qui est dévoilée ce matin dans les différents quotidiens, entre autres dans Le Devoir, où on démontre qu'il y a de plus en plus de résidents qui vivent sur le territoire de la CMM, ou qui vivaient plutôt, et qui s'en vont dans des municipalités situées dans le pourtour, donc qui ne font pas partie de la CMM. Et ce que ça fait, bien sûr, c'est que ces gens-là, ils recherchent des endroits où ils peuvent s'installer, construire des maisons unifamiliales, donc s'installer avec la petite famille plutôt que de s'installer dans des territoires où il y a une plus forte densité de population. C'est ce qu'on appelle l'étalement urbain. C'est un phénomène bien connu. Or, le phénomène de l'étalement urbain se poursuit dans la région de Montréal et loin de s'amenuiser. L'étalement urbain dans la grande région s'intensifie. C'est le constat que fait la CMM, qui reproche aux municipalités à l'extérieur de son territoire de bénéficier de règles de développement trop permissives. Alors évidemment, ça arrive avec son lot de problèmes, là, c'est-à-dire que ces gens-là, qui sont à l'extérieur des grands réseaux de transport de la CMM, vont prendre leur voiture pour venir travailler. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, c'est le cas de Saint-Colomban, entre autres, dans les Laurentides, dont 89,8 % des mises en chantier entre 2013 et 2018 se composaient de maisons individuel. Et à Sainte-Sophie, c'est un taux de 72%. Et pendant ce temps, sur le territoire de la CMM, ben, le taux ne dépasse pas les 40%. Alors, on peut comprendre que les gens s'installent en périphérie, probablement parce que ça coûte un peu moins cher que sur le territoire de la CMM, parce que il y a plus de terrain disponible. Et la CMM perdait depuis 2015 environ 7 000 résidents annuellement au profit des banlieues limitrophes. C'est du monde quand même. Et il y a 30 municipalités où il y a plus de 40 % de leurs résidents qui viennent travailler sur le territoire de la CMM. Ça indique que ces gens-là, la plupart, s'installent dans des municipalités limitrophes et viennent travailler sur le territoire, profitent des services de la CMM en partie, évidemment, ne les paient pas. Alors, ces navetteurs utilisent leur voiture dans 94 % des cas. On peut comprendre que les systèmes de transport en commun entre ces villes limitrophes et le territoire de la CMM, ben c'est plus limité. Et la CMM reproche aux municipalités de ne pas respecter les orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Et les constats concernent l'étalement urbain. Ça inquiète beaucoup, en fait, plusieurs municipalités. Alors, il y a une étude qui a été faite, vous pourrez aller consulter ça sur le site de la CMM, et qui démontre l'ampleur du problème. Mais c'est pas nouveau, là. Ça fait des années, là, qu'on parle d'étalement urbain, puis c'est commun à toutes les grandes villes du monde, là. L'étalement urbain est un problème pour les villes-centres, et donc, mais il y a une raison pour laquelle les gens vont s'installer en périphérie. Et ça aussi, il faudrait peut-être s'attarder à ça et essayer de comprendre le phénomène si on veut les retenir sur le territoire, c'est bien évident. Bon, on parlait de cette histoire tout à l'heure avec Denis. C'est un homme de la région de Granby, un sympathisant nazi qui a été arrêté hier vers 17h30 par la police de Granby parce qu'il aurait tenu des propos haineux, finalement. Alors, et ce qui est intéressant, c'est que dans le journal La Voix de l'Est, on raconte comment cet homme-là a été débusqué par un professeur de philosophie de cégep qui s'appelle Xavier Camus. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il publie des informations, n'est-ce pas, sur sa page Facebook, quand il trouve des gens qui l'associent à l'extrême droite. Et dimanche, il a publié sur son blog un portrait plutôt sombre d'un gars qui s'appelle Valentin Auclair, un gars de Granby de 38 ans, qui associe ouvertement au mouvement néo-nazi. Et dans le billet qui est intitulé « Valentin Auclair, un néo-nazi de Granby ayant des fantasmes terroristes », eh bien, l'enseignant en question, qui s'appelle Xavier Camus, détaille les multiples publications extrêmement troublantes d'Auclair avec des captures d'écran à l'appui. Alors, le prof de cégep fait une espèce de vigile sur Facebook, entre autres, et sur d'autres plateformes pour trouver des gens d'extrême droite, et ça marche. Alors, ça a été publié par la suite dans La Voix de l'Est. La police de Granby est allée rencontrer Auclair, qui a été arrêté hier. Il demeure détenu jusqu'à sa comparution en cours aujourd'hui. Une accusation d'incitation à la haine pourrait être déposée, d'ailleurs, contre lui. Alors, qu'est-ce qu'il disait, le bonhomme en question? Alors, Auclair se rend sur une plateforme qui s'appelle VK, qui est une espèce de Facebook russe, mais beaucoup plus permissif, semble-t-il, et il diffuse plusieurs fois par jour de nombreuses publications et images à connotation raciste, homophobe ou anti-immigration. Et il a fait l'apologie du nazisme, il a même traité régulièrement de la race blanche aryenne. Il a louangé Adolf Hitler, là, vous voyez le personnage. Et là, écoutez bien. Lui, en fait, ce qu'il dit, c'est que les camps de concentration, c'est la plus grande innovation nazie. Il réclame l'abaissement de l'âge légal du consentement sexuel à 9 ans. Et il encourage l'achat d'armes pour la chasse aux Juifs, aux Nègres et aux Mahomardes. C'est son terme, un terme qu'il utilise. Alors évidemment, ça a intéressé beaucoup les policiers, n'est-ce pas, qui sont allés le cueillir. Il dit également que le 6 décembre devrait être considéré comme la Saint-Marc-Lépine et le 29 janvier comme la Saint-Alexandre-Bissonnette, faisant référence évidemment à la date de l'attaque contre la mosquée de Québec il y a 3 ans de ça bientôt. Et avant son arrestation, La Voix de l'Est avait communiqué avec lui, avec ce bonhomme-là, avec Auclair, pour comprendre un peu ce que c'était, ses motivations. Et lui, il dit non, il dit « je suis pas dangereux », il dit « j'exerce ma liberté d'expression, je suis victime de calomnies antifascistes et c'est clair que je suis victime d'un coup monté contre moi. Alors, on verra devant le tribunal si le juge pense la même chose. Bon, à part ça, ben, y a d'autres choses intéressantes. On a beaucoup parlé au cours des derniers mois, vous comprendrez, du danger que représentent les fameuses bases de données avec nos informations personnelles. 8 millions de personnes là, qui sont victimes d'une fuite de renseignements personnels chez Desjardins, ça inquiète. Il y a toujours ce projet du gouvernement et du ministre Éric Kerr de loger certaines données des Québécois sur des serveurs, en fait, sur des bases de données qui appartiennent à des grandes compagnies comme Amazon, par exemple, ou encore Google, etc. Or, Hydro-Québec veut faire aussi la même chose. C'est ce que nous apprend Pierre Couture dans le Journal de Montréal. Il dit « Les données personnelles des clients de la nouvelle filiale ILO d'Hydro-Québec seront confiées à des sous-traitants comme Amazon, Google, Microsoft ou encore IBM au Québec » et en Ontario également. Alors, qu'est-ce que c'est la filiale ILO? C'est une nouvelle filiale qui offrira aux Québécois différents outils technologiques pour mieux consommer l'électricité dans un concept de maison intelligente. Alors, ça va être des thermostats intelligents, puis des bebelles là, qui vous permettent de sauver l'électricité, d'allumer vos lumières à certains moments, les éteindre à d'autres, monter le chauffage quand vous êtes là ou quand vous n'êtes pas là, ou des trucs du genre. Et donc, pour ça, ben, ça va prendre, bien sûr, une certaine base d'informations vous concernant. Et ce que veut faire Hydro-Québec, c'est plutôt que de garder sur ses propres serveurs ces informations-là, on irait à l'extérieur dans des banques des serveurs, si on veut, là, qui sont détenus par des grandes multinationales. On ne veut pas dire lesquels chez Hydro-Québec, évidemment, parce que on veut protéger l'information, mais on pense que ça pourrait être des bases de données des sous-traitants comme Amazon, Google, etc. Alors, ça inquiète quand même certains analystes des milieux informatiques, parce qu'on dit, quand c'est à l'extérieur, quand on n'a pas mainmise dessus, c'est pas nous qui avons le contrôle sur tous les paramètres et ça pourrait donner lieu à des fuites de données, est-ce qu'on craint en fait, ou encore est-ce que le privé pourrait utiliser ces données-là et s'en servir à mauvais escient, ben, c'est la crainte qu'ont certains observateurs. Et terminons avec, en fait, notre conscience environnementale. On est, les fêtes viennent de se terminer, on a beaucoup surconsommé évidemment en faisant des cadeaux bien souvent dont les gens à qui on les a donnés n'avaient pas besoin, mais ça fait toujours plaisir, hein? Fait plus plaisir de donner que de recevoir, dit-on. Alors, les centres de tri sont débordés à la suite du temps des fêtes, notamment parce que on envoie à peu près tout et n'importe quoi dans le recyclage sans se préoccuper à savoir si oui ou non c'est recyclable ou pas. Et dans le Journal de Montréal, on en parle, on dit les centres de tri débordés et donc la surconsommation, dit-on, on la voit dans les centres de tri parce que les employés s'affairent maintenant à démêler à peu près tous les produits qui ont été envoyés dans les centres de récupération. Le problème, c'est qu'il y a de tout là-dedans, là. Il y a des décorations de Noël, il y a du papier d'emballage, il y a des boîtes de carton, il y a des lumières de Noël, dit-on même, qui sont envoyées. Et on lève le petit fanion d'alerte, n'est-ce pas, en disant, là, vous jetez n'importe quoi dans votre récupération, pourriez-vous faire un tri qui a de l'allure? Parce qu'il y a des choses que vous jetez et qui ne sont pas destinées au centre de tri, mais bien au fameux éco-centre, où on peut récupérer, entre autres, de l'électronique puis différentes matières, n'est-ce pas? Alors, chez Récup Estrie, la hausse du tonnage est de 10 à 12 % à la suite du temps des fêtes. Évidemment, il faut embaucher des gens pour venir faire le tri de toutes les matières qu'on ne peut pas envoyer dans les bacs à recyclage. Alors, ça cause beaucoup de problèmes. Alors, ayez un peu de conscience si vous n'avez pas encore défait votre sapin, là. Ça va arriver, là, parce que de la manière où finissait le temps des fêtes, c'était jeudi dernier, grosso modo, mais on a étiré ça jusqu'à dimanche, parce que bien souvent, les gens ont fait le pont. Mais là, c'est bel et bien terminé. On va retrouver énormément d'arbres de Noël usagés dans les centres de tri, de recyclage, les éco-centres, etc. Il est 6h24 minutes. Et on va aller voir ce qui se passe sur la 440, Linda.